Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, on va parler avec quelqu'un de chez Figma, mais avant, je veux absolument parler avec toi d'un événement sur lequel tu es en train de travailler. Et c'est une conférence, j'allais dire presque semi-privée, un événement intime que tu es en train de préparer.
Oui, c'est pas comme les événements d'habitude qui sont gratuits. Celui-ci coûte des sous, dans les environs de 300 $ par personne. C'est Cornelius Rachirou qui est l'organisateur de Cannes UX, le gros événement UX au Canada, si on peut le dire comme ça, qui attire vraiment beaucoup de gens de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, tout ça. Et c'est ça, il fait cet événement-là. Il l'avait déjà fait avant la pandémie. Il en refait une nouvelle édition. Puis c'est vraiment pour les UX ou pour les gens qui sont dans des système complexe, puis qui essaie de comprendre et de les organiser comme il faut, Cornelius a toujours des informations intéressantes et des ateliers qui nous aident à arriver à faire ça dans des grandes organisations.
Alors, ça a lieu quand et où on trouve les billets?
Ça a lieu le 12 avril et vous pouvez consulter ça sur mes réseaux sociaux. L'événement Eventbrite est annoncé à ce niveau-là. Sur LinkedIn, je l'ai annoncé souvent. Je vais le réannoncer cette semaine encore. Il reste quelques places. Ce serait bien, bien le fun de vous y voir.
Bon, alors voilà. J'en reviens à ton invité. On commence cette semaine une entrevue en deux temps avec une dame de chez Figma.
Exactement, avec Alexia Danton, qui est comment on a dit ça en français, qui est l'avocate, la personne qui représente la marque Figma en Europe. Et comme on n'a pas de représentant francophone en Amérique du Nord, j'ai parlé avec elle. On avait déjà eu une entrevue à l'automne ou à l'été dernier avec elle lors du grand événement de juin. Et cette fois-ci, on parle d'un rapport qui a été fait sur Figma par Forrester. Bon, on s'entend, c'est un rapport payé par Figma quand même, mais je pense que Forrester amène quand même une touche d'objectivité dans l'exercice sur les avantages que représente l'utilisation de ce logiciel-là et par la bande un peu, évidemment, la méthodologie UX parce que Figma a pris tellement de place dans les 3-4 dernières années, c'est devenu l'outil incontournable de tout le spectre de ce qu'on fait dans l'UX, c'est-à-dire des ateliers au début, la recherche, les tests utilisateurs, le prototypage, tout est là-dedans et le produit continue à s'améliorer parce que, on le sait, la tentative d'achat de Adobe envers Figma à l'automne ou l'année dernière, en fait, n'a pas fonctionné. Adobe n'a pas l'air de vouloir se relancer dans la construction d'un nouveau logiciel dans ce sens-là pour l'instant. Donc, Figma est le joueur le plus important, mais il répond bien à son rôle. Ça reste une mentalité de start-up dans cette entreprise-là. Et donc, Alexia nous parle de tout ça, des chiffres très impressionnants que ça amène au niveau de l'amélioration, que même si on prenait la moitié des pourcentages qu'elle nous donne, ça reste vraiment intéressant de considérer d'avoir l'implantation d'une méthodologie UX, voire évidemment de Figma dans une organisation. Là.
Alors là, on écoute la première partie et la semaine prochaine, tu nous réserves la deuxième partie de ton entretien.
Exact.
Vous allez parler de quoi la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va parler de l'événement, justement, comme l'année dernière que Figma utilise.
Le grand rendez-vous. Là.
La grande messe de Figma. Et ils ont élargi un peu, je pense qu'ils se rendent compte du rôle assez incontournable qu'ils ont dans l'industrie. Donc, ce ne sera pas juste des annonces Figma, mais il va y avoir une partie sur l'art numérique, l'intelligence artificielle, évidemment, et l'incontournable aspect que ça représente dans la conception d'interface. Donc, je pense que ça va être intéressant, puis j'ai hâte que vous écoutiez ça.
Mais ça, c'est la semaine prochaine. Là, pour le moment, on va écouter la première partie de cette entreprise. Vu avec l'advocate, l'avocate de l'ambassadrice de Figma dans le monde francophone. Merci Jean-François pour cette rencontre. On va écouter ça, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
À la semaine prochaine. Bye. Bonjour Alexia. Dis-moi, il y a un rapport qui est sorti dernièrement sur les avantages de l'utilisation de Figma dans les grandes organisations. On s'entend, le Figma a fait des pas de géant dans les dernières années. Et c'est devenu un produit extrêmement mature, très, très proche des développeurs aussi. Qu'est-ce que ce rapport-là avait à dire? Quels sont les grands avantages que c'est pour une organisation d'avoir Figma comme outil de dialogue, finalement, entre tous les parties dans une entreprise?
C'est intéressant que tu poses cette question-là en ouverture, effectivement. Alors, c'est un rapport, en fait, qu'on a fait en partenariat avec Forrester, qui est une grande entreprise d'audit, en fait, qui permet aux entreprises, ou alors de façon indépendante, de faire ce genre d'études. Et en fait, on avait un axe parce qu'on sait que souvent, les gens viennent nous demander des chiffres concrets.
Oui.
Les gens veulent des chiffres concrets. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est purement par rapport à l'outil, puis il y a une raison par rapport, en fait, à justifier ce qu'on fait dans l'outil, c'est-à-dire, en fait, justifier les process design.
Exactement.
Alors, ces chiffres, du coup, qu'on a sortis sont très liés à Figma. Donc, il faut prendre un peu ça avec des pincettes pour justifier les processus design, mais c'est des chiffres qui permettent, du coup, d'avoir ces conversations-là en interne, éventuellement, du coup, de vendre des processus de collaboration plus poussés.
C'est vrai.
Parmi les chiffres qu'on a trouvés, du coup, Alors, c'était très, très large. C'était vraiment sur la suite complète des produits Figma, de l'idéation avec FigJam jusqu'au développement avec DevMod maintenant. Et alors, je crois que quelques chiffres intéressants. 35% de gains de productivité dans les équipes de développement en fin de parcours, ce qui est quand même pas rien. On avait aussi, du coup, 40% d'efficacité supplémentaire sur la définition des problèmes. Et ça, c'est vraiment lié au fait d'incorporer toutes les parties prenantes en amont très, très tôt dans le process, d'avoir ces processus où tu peux commenter, tu peux itérer tous ensemble. De façon plus générale, on avait 60% d'optimisation sur l'idéation et sur la création de concepts. Et ça, ces chiffres-là, celui-là, et puis aussi le gain de productivité sur le développement, ces deux-là, ils sont à prendre sous la perspective du design system, notamment. Et sur, okay. En fait, exactement, oui. Voilà, les avantages que, en fait, la rapidité avec laquelle tu peux basculer de tes idées à une réalité grâce à design system. Et alors, un de mes chiffres préférés, parce qu'il est juste gigantesque, on a du coup en moyenne sur les entreprises qu'on a interviewées, qui a un panel en fait d'entreprises qui est quand même déjà à très très grosse échelle. Hein. C'est pas des petites structures, donc c'est peut-être une des limitations entre guillemets de l'étude.
Et tant mieux. En fait. Parfois, c'est des grosses organisations qui sont les plus rébarbatives à l'utilisation des méthodes.
Oui, tout à fait, parce que c'est celles qui sont les moins agiles et pour qui la conduite du changement est la plus difficile. Ouais. Donc c'est, ouais, là où effectivement ça demande beaucoup plus d'efforts et du coup de coûts de mettre des nouvelles choses en place.
Exact.
Mais du coup, sur ces grosses structures qu'on a interviewées de façon très qualitative, en fait, en moyenne, le ROI sur 3 ans après l'usage de Figma, après la mise en place de Figma, il était de 328%.
Mais c'est énorme.
C'est énorme.
C'est peut-être même inversement proportionnel à ce qu'on voit de ces énormes projets numériques qui perdent énormément d'argent, qui sont livrés en retard, qui sont hors budget et qui causent énormément de frustration à leurs utilisateurs. Donc, on peut imaginer que on vient de sauver ça si on a intégré la méthodologie, mais l'outil également pour arriver à des bons résultats, là.
Et les deux vont main dans la main. C'est pour ça que je dis, il faut prendre attention avec ces chiffres. Ces chiffres-là ne justifient pas le processus design en tant que tel. Ils justifient à la fois la création de design system et puis à la fois les processus de collaboration que Figma crée. Et en fait, c'est vrai que le design, en fait, c'est, au final, c'est un tout qui inclut, ouais, ces deux choses-là, mais qui va aussi au-delà de ça, évidemment. La valeur du design, il y a d'autres études, par exemple, je peux citer l'étude de McKinsey qui date déjà de 2019, donc elle n'est pas toute jeune, oui, mais de Business Value of Design, qui, elles, ont vraiment mesuré en fait l'impact design au niveau des entreprises sans passer par la problématique d'outils. Et là, pour le coup, l'étude de McKinsey, elle était très concentrée en fait sur le fait qu'on apportait, je crois bien, je vais me rappeler exactement la terminologie qu'ils utilisaient, mais c'est valeur. Donc, en fait, voilà, le fait de se différencier avec des offres innovantes, donc de sortir un peu du lot, on va dire, dans une masse compétitive pour les entreprises, la qualité de l'expérience utilisateur et la puissance de cette expérience, c'est-à-dire la fluidité technique qu'il y a derrière ça. Et tout ça, c'est des choses qu'en fait, le design impacte, mais frontalement. Et on voit que les entreprises qui font ça, enfin, qui arrivent à booster ces trois aspects-là de leurs produits et de leurs services, bah en fait, ils boostent la performance globale de l'entreprise et il y a un impact direct sur le revenu de l'entreprise et puis derrière la valeur qu'elle a en bourse ou en tout cas à laquelle elle est évaluée si c'est une entreprise privée.
Mais à travers cette étude-là, on a aussi donc un élément commun, un tronc commun qui est le logiciel Figma qui permet l'intégration de tous ces paramètres de design-là qui sont la concrétisation, si je peux utiliser ce terme-là, des idées qu'on a, tu parlais d'idéation tout à l'heure et de l'augmentation aussi de la façon dont on conçoit, de la façon dont on fait de l'idéation sur des projets, qu'on les valide également. Une image vaut 1000 mots, ça reste que, ouais, c'est une vieille expression, mais elle est super valide.
Et en fait, c'est pour ça que je différencie, et en même temps, ils ne sont pas différenciables, c'est intéressant comme conversation, mais je différencie le design et l'outil, et en même temps, les deux sont tellement intégrés, ils s'influent tellement l'un et l'autre qu'ils sont indifférenciables. Mais tu as la partie design, par exemple, ça va être les process que tu es capable de mettre en place, et je pense notamment, quand tu veux des chiffres, ça va être genre la recherche utilisateur. La recherche utilisateur, c'est ça qui va te permettre, ouais, avec des tests d'usabilité qui te permettent de dérisquer ou alors même de l'A-B testing qui va te donner vraiment des pourcentages très précis en production. C'est ça, en fait. Enfin, c'est le fait de prendre le temps de faire ça. Ce n'est, ouais, pas l'outil en tant que tel. C'est vraiment juste le fait de mettre ces process-là.
L'outil. En même temps,
ouais. Et en même temps, tu vois, ça en fait, c'est de la culture design. C'est juste de la culture à l'échelle de l'entreprise. Et la culture design, en fait, c'est pas qu'un truc de designer, même si le nom, on dit design, ouais, designer, mais, ouais, c'est un truc qui est beaucoup plus global. Et c'est là, en fait, un outil comme Figma qui place la collaboration au centre de tout, en fait, il vient débloquer ça parce que, justement, il vient mettre les gens tout autour de la table et il vient, en fait, insuffler cette culture qui, elle, du coup, va commencer à permettre de mettre les bons process en place et du coup, en fait, d'avoir l'impact business. Donc, il y a les deux parce qu'il y a un impact directement lié à la rapidité, on va dire, et la productivité. Donc, le design system, le fait d'avoir des composants, de passer beaucoup plus vite de idée à maquette à développement. Ça, c'est vraiment juste de la productivité.
Et suivi de développement après dans le temps, c'est super important, le principe du design system. Et si je pense là que Figma a fait sa marque la plus forte, c'est de nous permettre d'être très, très proche des forces de développement. Surtout, d'autant que l'année dernière, en 2023, vous avez sorti la version dev. Ça, c'est un game changer, comme ils disent en chinois. Ça a aidé beaucoup à notre dialogue avec les développeurs. De fait, en tant que personne qui fournit des services dans des plus petites entreprises, je le vois maintenant, des développeurs qui disent « Ah oui, non, mais on l'utilise la version dev. Nous, on s'attend à ce que vous fassiez des designs qui vont correspondre à ce que nous, on a de besoin, qui vont nous donner les éléments dont on a de besoin dans la version dev. » Ils l'utilisent. C'est surprenant, ça.
Non. Et en même temps, c'est surprenant. C'est pas surprenant parce qu'on a quand même mis beaucoup de recherche utilisateur derrière. Le produit, on l'a pas fait juste pour se faire plaisir. Il venait d'un besoin concret qu'on avait identifié. On savait que aujourd'hui, en fait, Figma avait, enfin, déjà permis, on va dire, de réunir beaucoup d'outils en un seul outil. Et donc, déjà, de mettre beaucoup de parties prenantes autour de la table là où les gens travaillaient dans des plateformes séparées avant.
Ouais.
Et en fait, le problème, c'est en faisant ça, comme on mettait un peu tout le monde sur le même fonctionnement que les designers, on forçait un peu tout le monde à avoir le même modèle mental, ce qui ne correspond pas forcément aux usages de chacun. Et du coup, les développeurs qui déjà venaient, on avait déjà avant DevMod, et on l'a toujours, hein, mais un tiers des utilisateurs de Figma, c'était des développeurs, déjà avant.
Oui, ça c'est déjà impressionnant. Je l'ai appris quand vous avez sorti la version dev, un tiers des... C'est un succès, ça, c'est incroyable. Et ça devrait probablement même augmenter parce que maintenant, il est officiellement intégré dans le logiciel depuis un an, là. Est-ce que vous avez vu une tendance, au-delà du rapport dont on parle depuis tout à l'heure, au-delà de ce rapport-là, depuis un an, vous avez vu des effets concrets dans les grandes organisations de la version dev?
Oui, tout à fait. On a commencé à pouvoir partager des success stories là-dessus. On a Decathlon qui a beaucoup parlé dès la sortie parce qu'eux, ils étaient en bêta. Donc, eux, ils avaient déjà commencé à tester et à faire un peu cette conduite du changement en avance. Donc, Decathlon pour la partie française, boîte qu'on connaît dans le monde francophone. Et à côté de ça, là, on est en train de commencer à vraiment... On avait bien conscience qu'en fait, comme c'est une façon de travailler, on revient sur cette histoire de à l'échelle, je pense qu'il y a surtout besoin, enfin, qu'il y a surtout une nécessité pour des grandes boîtes, pour des grandes structures. Aujourd'hui, c'est justement un peu plus éclaté et un peu plus siloté. C'est là où va y avoir le plus gros apport de valeur. DevMod, moi, je suis convaincue que c'est un outil qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais pour ceux pour qui c'est, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et pour moi, ces gens-là, c'est surtout, comme je disais, des gens qui sont dans des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de friction sur cette partie-là de communication, de partage. Oui. Les gens ne sont pas forcément côte à côte, ils sont peut-être dans d'autres pays, ou alors il y a des frictions culturelles. Et donc, pour ces boîtes-là, en fait, comme c'est beaucoup, beaucoup de monde, faire une conduite du changement, c'est coûteux. Et donc, il y en a beaucoup qui se posent encore un petit peu la question de... en fait, ils veulent juste avoir, en fait, des success stories. Ils veulent avoir un petit peu un guide, un petit mode d'emploi d'autres gens qui sont passés avant qu'eux pour les rassurer, leur dire, nous, on a fait ça comme ça. Ça a marché. Dans la conduite de changement, on ne l'a pas très bien fait. On a appris des choses de ça. Et du coup, pour qu'eux puissent l'impacter mieux. Donc, en fait, on sait qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir ces histoires-là, de pouvoir les partager. Et donc, on commence à le faire. On a des live streams, on a des webinaires qu'on a commencé à faire et qu'on va sans doute publier sur YouTube avec Razorpay, notamment. On a eu Kayak hier, à l'heure où on se parle. C'était juste hier, le webinaire. On va avoir Just Eat bientôt, je le tease. Il n'est pas encore officiel, mais on va avoir Just Eat qui va venir parler de leur usage de DevMod et de comment est-ce qu'ils l'ont implémenté. Donc, on commence vraiment à avoir ces histoires, ces belles histoires qui viennent des entreprises. Et on a également les API de Figma, en fait, où on a certaines API qui permettent directement aux devs, depuis leur code, de faire des appels vers ces API-là et du coup de pousser ou de récupérer les informations entre Figma et puis eux, le travail qu'ils font.
OK.
De façon, en fait, en back-end, donc c'est pas même sans rentrer dans l'outil. Puis on a encore, alors c'est encore au niveau d'au-dessus, avec le DevMod, on a aussi l'intégration avec VS Code, qui est un outil d'écriture code utilisé par énormément de développeurs web.
Ah oui.
Et ça, en fait, du coup, depuis VS Code, maintenant, les développeurs sont capables de venir, en fait, ouvrir les fichiers Figma sans quitter leur fenêtre et de récupérer exactement toutes les informations, les commentaires, les notifications, les styles, les variables, etc. Et du coup, en fait, c'est ultra, ultra intégré.
Oui.
Donc, il y a ce rapprochement, enfin, cette direction de rapprochement, justement, pour avoir tout le monde sur une seule et même plateforme. Et alors, pour revenir sur le deuxième point, parce que je trouve qu'il était très, très intéressant, tu parlais des analystes d'affaires.
Oui.
Et du fait qu'ils voient un peu les UX comme des compétiteurs. Ouais. Et alors, c'est un sujet à part, c'est un sujet passionnant. Évidemment, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. C'est pas encore, mais on se recoupe un peu parce qu'on doit, je pense, de plus en plus, si les entreprises nous perçoivent, comme tu disais au début, ils s'aperçoivent que c'est pratique. On a quelque chose à amener dans la définition du projet au début. On va l'illustrer, on va le tester, on va amener toutes les méthodologies du design. Mais les analystes d'affaires sont là aussi dès le début. Et eux aussi ont leur rapport à ce projet-là. Et c'est vrai qu'il y a une redéfinition du métier en ce moment, ou une définition de cette collaboration-là qui est là.
Et attention, on n'est pas encore prêt à la troisième étape, qui est d'avoir les développeurs aussi dans la boucle au tout début avec nous.
Oui, non, c'est vrai. On va s'en dire, absolument.
Et on va là, parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment tout le monde autour de la table très, très tôt. Et en fait, je pense que cette manifestation de cette un peu, parfois du manque de confiance, en tout cas de ces frictions qu'il peut y avoir, c'est la manifestation de quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que, comme tu faisais allusion, en ce moment, on est en train de voir une hybridisation, enfin, une espèce d'hybridisation des rôles. Et ça peut déstabiliser les gens. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a plus forcément un titre concret ou une notion concrète ou en tout cas un scope c'est concret bien. En disant ça c'est moi et ça c'est toi. Et on aime bien se définir aussi par opposition aux autres et se dire ça c'est mon petit truc, c'est mes responsabilités, ça c'est tes responsabilités et on sait qui participe au succès de quoi. Mais c'est exactement ça. En fait, la base de ce qu'on fait, là on peut apporter beaucoup de valeur, c'est les ateliers. Et en fait, je pense que ce qui nous permet de dépasser ces clivages de juste moi j'ai ce titre-là et toi tu as ce titre-là, du coup c'est comme ça et pas autrement, c'est en fait de vraiment arriver autour d'un même espace, un même tableau blanc et de juste rendre compte qu'en fait, avoir plusieurs cerveaux autour de la table, ça permet de voir le même problème de beaucoup d'angles différents, que chacun en plus apporte son propre biais cognitif, c'est-à-dire que personne n'est... On n'a pas la solution individuellement, on ne l'a pas. On a par contre, on a des morceaux. Et en fait, en faisant ça tous ensemble, donc moi avec ma personne, je mets ça autour de la table. Et en fait, on va trouver un plus vite et deux mieux des solutions qui sont complètes et qui sont solides. Et chacun est valorisé. Et c'est vrai que nous, en fait, un terme qu'on utilise beaucoup chez Figma, on parle un peu en interne beaucoup de cette hybridisation des rôles en se disant, en fait, peut-être le monde de demain, le designer, il n'existe pas. Mais ce n'est pas forcément mal. Ce n'est pas qu'il n'existe plus parce qu'on n'a plus de travail. C'est juste que le rôle, il est plus fluide. Il y a d'autres gens qui, entre guillemets, sont... à des designers, mais c'est aussi un peu à nous de nous adapter, de ne pas faire, on dirait, du gatekeeping. Mais il faut aussi être ouvert à ça. En fait, on aura toujours de la place pour nos expertises, mais chacun est valorisé dans ce processus d'atelier, dans ce processus d'idéation.
Oui, absolument. Alexia, j'aimerais te remercier pour cette super conversation.
Merci beaucoup à toi.